elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épante face subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
With Capella University's FlexPath format, you can set your own deadlines, learn at your pace, and access most coursework from anywhere at any time. Imagine your future differently at capella.edu.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Maïmouna Doucouré.
Je me souviens que quand je l'avais créée sur Maman, les gens me disaient « Mais tu veux pas quand même filmer le visage de la mère ? On sait jamais si tu changes d'avis au montage. » Et j'ai dit « Non, je ne changerai pas d'avis au montage. » Parce que moi, j'adore les challenges et je me suis dit, je vais devoir, moi, en tant que réalisatrice, trouver la solution pour créer l'émotion juste avec des pieds.
C'est fou que La Poudre se soit aussitôt placée sous le marrainage des femmes du cinéma. Parmi mes toutes premières invitées, celles qui ont échangé avec moi dès 2016, avant même que le podcast soit en ligne, il y avait les réalisatrices Rebecca Zlotowski et Ouda Benyamina, deux femmes qui m'impressionnaient par leur capacité à se créer un nom aux côtés de tant d'hommes. C'est fou parce que c'est par le cinéma que la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui s'est déclenchée. En 2017, les femmes d'Hollywood ont dénoncé haut et fort le sexisme de leur industrie. Et depuis, l'histoire du féminisme est jalonnée de prises de parole par des femmes du cinéma qui constituent de grands tournants.
On est une famille, on se dit tout, non ?
Comme un bilan, le livre « La Poudre, tome 2, féminisme et cinéma » rassemble les voix engagées du cinéma qui sont passées à mon micro ces quatre dernières saisons. Aïssa Maïga, Iris Bray, Alice Diop, Julie Gayet, Fanny Herrero, Céline Salette, Déborah Lucumuena et les autres. Toutes ont fait bouger les lignes, pas seulement dans leur milieu, mais dans la société tout entière. Cet ouvrage, dont je suis super fière, sera en librairie le 19 mai, mais il est déjà disponible en précommande. Et pour en marquer la sortie, j'ai voulu inviter dans La Poudre l'une des réalisatrices les plus talentueuses du moment. Une femme qui reprend le flambeau de ses combats contre le sexisme et le racisme au cinéma. Une femme qui raconte des histoires et crée des images qui changent le monde. Avec Maïmouna Doucouré, on a parlé de maman, de mignonne et de Netflix. Maïmouna Doucouré, vous êtes réalisatrice et vous êtes une femme fulgurante. Non, vraiment, quand je regarde vos films, votre parcours, ce qui me frappe, c'est la fulgurance. Celle de votre succès, d'abord, avec ce premier court-métrage, Maman, avec un S, sélectionné dans plus de 200 festivals à travers le monde, couronné de dizaines de prix, dont en 2017, le César du meilleur court-métrage, ex aequo avec Vers la tendresse, de votre consoeur Alice Diop, que j'ai eu aussi la chance de recevoir ici. Le succès tout aussi fulgurant de votre premier long-métrage, Mignonne, qui est paru simultanément en France sur les grands écrans en août 2020 et sur Netflix partout dans le monde, et qui a lui aussi été acclamé. Il a reçu le prix de la meilleure réalisation au festival Sundance, la mention spéciale du jury à la Berlinale et le César de la révélation pour votre jeune actrice principale, Fatia Youssouf. La fulgurance aussi de la polémique qui a entouré la sortie de ce film, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, et la fulgurance, enfin, de vos prises de parole, de votre énergie et de votre sourire, dont j'ai l'impression que vous ne vous départissez pas très souvent. J'ai une grande admiration pour votre parcours, donc merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi alors que vous êtes, je crois, en pleine écriture.
Merci, merci beaucoup à vous, Laurine. C'est un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Et merci, merci pour vos mots aussi. Ça me fait plaisir, ça me touche, surtout venant de votre part, parce que j'admire tellement votre travail, toutes les actions que vous menez. Oui, c'est vrai, je suis en écriture en ce moment. Je suis, j'ai envie de dire, je suis en pleine action, parce que je trouve que c'est une période où on a besoin d'être dans l'action, en tout cas dans la création. C'est assez inspirant.
Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, j'avais envie qu'on s'interroge ensemble. Parce qu'il me semble que ces 4 dernières années, en fait, en gros, depuis la révolution MeToo, qui est quand même née à Hollywood, il faut le rappeler, les femmes du cinéma ont été un vecteur très important pour la lutte contre le sexisme, qu'elles ont joué un rôle central dans une prise de conscience globale de la société sur les inégalités de genre. Qu'est-ce que peut, selon vous, le cinéma pour le féminisme ?
J'ai envie de dire déjà, qu'est-ce que peut le cinéma pour le monde, de façon générale ? Ouais. Je pense que le cinéma a ce pouvoir de le changer, de le transformer en ayant une action très forte sur les imaginaires. Et je pense que aller vers, en tout cas créer des fictions fortes, créer des personnages, des héroïnes fortes au cinéma peut permettre en tout cas à la société d'évoluer. Moi, j'en ai l'intime conviction. Montrer justement des personnages avec... en tout cas, au-delà de ce qu'on a l'habitude, parce que quand je repars même dans ce qu'on a vu quand on était enfant, vraiment, aujourd'hui, je me réinterroge. Moi, je suis une grande fan des Disney, par exemple. Et quand je les revois adultes, je me dis, mais en fait, c'est quoi le message qu'on transmet ? Quand on est une petite fille, on se dit, OK, donc être une fille, c'est être une fille jolie, mince, dont les amis sont une petite souris et un petit oiseau. Les autres femmes qui nous entourent, en l'occurrence, nos sœurs sont horriblement méchantes et il y a comme ça une dynamique de concurrence, de jalousie entre nous. Et puis, évidemment, on est dans une condition, on est oppressé et on a besoin d'être libéré par un prince qui va venir comme ça nous sauver. Et évidemment, la seule façon qu'il va avoir de nous reconnaître, c'est notre tout petit pied, évidemment, et non pas ni notre intelligence, ni notre talent. Donc je me dis que c'est sûr que se construire de cette façon, enfin construire en tout cas l'estime de soi et ce qu'on est en tant que femme à travers des fictions comme celle-là quand on est enfant, forcément ça a des séquelles quand on devient adulte. Donc je pense que réimaginer nos récits, repenser les histoires qu'on raconte depuis l'enfance, c'est vraiment une des clés qui permettrait d'influer grandement sur la société. Ouais. Mmh.
Et est-ce que votre propre travail, votre propre cinéma, vous le qualifiez volontiers de féministe ?
Bah, disons que je n'ai pas le choix. J'ai pas eu le choix. De par mon histoire, j'ai pas eu le choix parce que moi, j'ai grandi, j'ai une enfance très heureuse, hein, mais j'ai observé tellement d'injustices autour de moi quand j'étais enfant. Pour tout vous dire, quand j'avais entre 8 et 10 ans, mon plus grand rêve, c'était d'être un garçon. Donc je croyais en Dieu parce que j'avais une éducation religieuse, donc je priais pour que Dieu me réveille en garçon, parce que très tôt, j'avais cette conscience du fait que être une fille, la vie en tant que fille serait beaucoup plus difficile. Et bon, Dieu ne m'a pas donné de zizi, n'est-ce pas ? Mais tant mieux, moi, en tout cas aujourd'hui, je suis très bien avec le fait d'être une femme. C'était pas tant le fait d'être une femme, c'était plutôt les conditions, parce que je voyais, comme je disais, beaucoup d'injustices. J'ai des mariages forcés, la polygamie des tantes, ou même de voisines qui subissaient, qui se résignaient à accepter parce que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a un mot qui est utilisé dans ma langue et aussi dans ma langue, parce que moi, je suis d'origine sénégalaise et je parle le soninké, et qui est utilisé dans d'autres langues d'Afrique de l'Ouest, en tout cas qui ressemblent beaucoup, c'est le mot « mouni ». Et ce mot mouni, ça veut dire « supporter, encaisser malgré tout ». Et j'ai l'impression qu'il a été créé de toutes pièces pour les femmes. Ouais. Clairement, à chaque fois qu'on parlait de femmes, de féminité, j'entendais toujours le mot mouni venir se raccrocher à la femme. Parce qu'en tant que femme, tu dois mouni pour tes enfants, tu dois mouni pour ton mari, mouni pour le paradis. Enfin voilà, il y avait toujours cette dimension-là de charge qu'on devait, que les femmes devaient subir. Et puis, Et puis, étant donné que, enfin, là, moi, j'ai grandi, je suis née en France, j'ai évolué dans cette société française, j'ai très vite fait le parallèle, en fait, sur le fait d'être une femme dans nos sociétés occidentales. Et j'ai pris conscience qu'on avait cette tendance à être très, très, très fort pour pointer du doigt les autres femmes et dire à quel point elles étaient opprimées et ne pas savoir se regarder soi-même. Et Mignonne est née de là, mon long métrage est née de là. C'est vraiment se dire, finalement, c'est dans toutes les sociétés qu'on doit interroger le patriarcat.
Pour revenir à votre enfance, dont vous avez un petit peu parlé, donc vous avez grandi à Paris, dans le 19e arrondissement, si je ne me trompe pas. Vous avez beaucoup parlé en interview de votre famille, de votre père, qui était éboueur, qui était un travailleur acharné, qui vous a enseigné la dignité. De votre mère, quand vous la décrivez, vous parlez d'une femme très attachée à la religion, avec laquelle vous n'êtes apparemment pas toujours d'accord. Et de cette deuxième maman aussi, la deuxième épouse de votre père qui vivait avec vous et vos 9 frères et sœurs. Et moi, la question que j'aime bien poser à mes invités, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite ?
Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a un paradoxe. j'ai l'habitude de dire que je crois que je suis devenue féministe, d'une certaine façon, le jour où j'ai été capable de faire la vaisselle. Parce que ce jour-là, moi, j'ai grandi avec des garçons, mais les frères qui étaient en âge les plus proches de moi étaient donc c'était des garçons. Donc, on avait l'habitude de jouer ensemble. On jouait tout le temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, d'un coup, on me dit, il faut faire la vaisselle. Ok, je fais la vaisselle, sauf que le problème, c'est que j'étais la seule à faire la vaisselle. Il n'y avait que les filles qui faisaient la vaisselle et les garçons ne faisaient pas la vaisselle. Et alors là, je disais, mais je ne comprends pas, ils ont des mains comme moi, des bras, des yeux, rien ne les empêche de faire la même chose. Et on me disait, c'est comme ça, parce que tu es une fille, donc tu dois faire la vaisselle. Et donc, il y avait cette dimension-là, moi, qui m'avait révoltée à l'époque. Enfin, ça ne m'empêchait pas de faire la vaisselle, je la faisais quand même. Mais ça me révoltait au plus haut point. Je réalise à quel point c'est culturel. Et puis, c'était comme ça partout.
Exactement. Au final.
Enfin, j'ai même observé, j'étais chez des copines qui étaient pourtant blanches, où c'était le cas également. C'était elles qui faisaient le ménage et leurs frères continuaient à jouer sur la PlayStation, quoi. Enfin, à l'époque, c'était la Nintendo. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je pouvais observer dans différents milieux, quoi. Donc, je voyais bien que ça appartenait pas seulement à mon milieu, du fait que je sois d'origine sénégalaise, etc. Et à côté de ça, il y avait aussi cette dimension donc, de parents qui ont émigré en France dans les années 70 et qui nous partageaient vraiment cette pensée forte selon laquelle il fallait absolument réussir en France, qu'on avait la chance d'être né en France, d'avoir cette opportunité-là de devenir quelqu'un. Je mets entre guillemets. Et mon père était très, très attaché aux études. Lui, qui n'avait pas fait d'études, qui avait appris à lire par la force des choses, il n'avait même pas pris de cours du soir. Mais il était vraiment à cheval sur l'école. Il fallait absolument qu'on ait des bonnes notes. Il fallait qu'on réussisse. Et ça, pour le coup, je peux dire qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Qu'on soit une fille ou un garçon, le fait d'avoir un métier, d'avoir un bon salaire, c'est quelque chose qui nous a toujours été insufflé depuis qu'on est tout petit.
Il y a dans vos deux films, dans Maman et dans Mignonne, une scène récurrente, celle où la petite fille se tapit sous le lit parental et épie une conversation entre ses parents. Alors dans Maman, c'est une conversation qui a lieu en vrai, et dans Mignonne, sa maman est au téléphone. Et je trouve que cette scène, elle est vraiment universelle. Je pense qu'on a tous et toutes été cette petite fille-là. Est-ce que cette scène, elle raconte quelque chose de votre enfance ?
Cette scène, c'est vrai que j'ai décidé de la raconter de nouveau, de façon différente, en tout cas dans Mignonne. Cette scène, pour moi, raconte l'universalité de l'enfance. Parce que je raconte un film, que ce soit dans Mignonne ou dans Maman, qui parle de personnages noirs, de personnages d'origine sénégalaise, avec des réalités qui, pourraient paraître, en tout cas qui sont différentes peut-être de la vôtre ou de d'autres personnes. Et c'est vrai qu'en voyageant avec mes films, j'ai rencontré tellement de personnes qui me disaient « mais moi je suis un homme, je suis d'origine canadienne, je suis d'origine asiatique, peu importe, et je me reconnais, j'arrive totalement à m'identifier à cette petite fille, notamment quand elle est cachée sous le lit. » C'est la scène, c'est l'une des scènes qui a beaucoup marqué les gens. Pour moi, c'est cette scène. Vous allez rire parce que évidemment, en tant que réalisatrice, moi, je vois plein de choses que vous n'avez, enfin, que peut-être vous voyez pas, ou vous allez voir d'autres choses. C'est ça qui est magnifique quand on crée, c'est qu'après, chacun se l'approprie et y met une vision. Donc, mais pour moi, cette scène, c'est vraiment d'une certaine façon cet enfant qui est comme dans un cocon, et ce cocon représente presque un cocon maternel. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, avec sa mère qui est au-dessus, les deux jambes écartées, vous voyez ce que je veux dire, elle est en dessous du lit, on voit les deux jambes comme ça. C'est comme un acte de donner la vie quelque part, sauf que évidemment elle reste à l'intérieur et elle est témoin du monde des adultes. C'est l'enfant qui n'est pas encore arrivée dans le monde des adultes parce qu'elle est encore protégée dans ce cocon, mais qui malgré elle va être témoin de ce monde des adultes qui est d'une violence inouïe. Et cet enfant qui est lié par le cordon ombilical de sa mère, d'une certaine façon, va absorber toute sa souffrance et sa douleur.
Oh là là,
c'est pour ça qu'on voit quand la mère pleure, l'enfant pleure avec elle parce que cette douleur est insupportable. Et quand elle va sortir dans le monde des adultes, sortir du lit, de dessous du lit, elle va décider de prendre la douleur de sa mère et d'agir à sa place, parce que sa mère ne le fait pas et se résigne. C'est comme ça que j'ai écrit cette séquence. Et c'était important pour moi qu'on ne voit que les pieds de la mère, parce qu'à ce moment-là, le personnage ne voit que ses pieds. Et comme j'ai construit mes films, enfin en tout cas Maman est mignonne, avec ce point de vue unique de ce personnage, pour qu'on soit avec elle en fait à 100% et qu'on vive ce qu'elle vit, qu'on voit ce qu'elle voit, qu'on ressente ce qu'elle ressent, qu'on ait notre cœur qui bat avec elle. Et c'était un vrai challenge pour moi, parce que je me souviens quand je l'avais créé sur Maman, les gens me disaient « mais tu veux pas quand même filmer le visage de la mère, on sait jamais si tu changes d'avis au montage ». Et j'ai dit « non, je ne changerai pas d'avis au montage, parce que moi j'adore les challenges ». Et je me suis dit « je vais devoir moi en tant que réalisatrice trouver la solution pour créer l'émotion juste avec des pieds. Donc comment je vais faire trembler ses pieds, bouger ses pieds qui sont juste posés, comment je vais devoir créer la lourdeur, le poids du monde qui vient se poser sur les épaules d'une femme, mais juste avec ses pieds ». Et voilà, c'était tout le... C'était comme un jeu pour moi, hein. Mais tout le challenge que j'avais dans la création de cette séquence.
Waouh, c'est magnifique. Hein. Cette idée de la naissance, en fait, comme si... Le fait de prendre conscience de la tristesse de sa mère, c'était comme son passage en fait vers le monde des adultes. Je pense que je l'avais perçu inconsciemment et je l'avais pas réalisé que c'était une naissance à laquelle
j'ai assisté. Oui, c'est ça qui est beau, je pense, c'est de jouer avec l'inconscient. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, jouer avec l'inconscient du spectateur, sans rien expliquer évidemment, mais j'aime bien ça. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais j'avais trouvé ça super beau. Je trouve que en tant que réalisateur, ce qui est magique, c'est quand on arrive à filmer l'invisible. Et ce sont des choses qui ne se voient pas, mais qui se ressentent. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire.
Ce que ça raconte aussi, Mignonne, et vous venez vraiment très bien l'expliquer, c'est aussi le passage de l'enfance à l'adolescence, la prise de conscience en fait du poids que représente le monde des adultes sur les épaules d'une enfant ou de quelqu'un qui sort tout juste de l'enfance. Et moi, je voulais savoir quel genre d'adolescente vous étiez. J'ai entendu que vous étiez très éprise de justice, un peu rebelle. Quel type de découverte vous aviez fait, vous, à l'époque, qui vous a donné envie de vous révolter? Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez cachée sous le lit?
Alors, moi, je me suis pas cachée directement sous un lit, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais une enfant. Déjà enfant, j'étais assez rebelle. Ma mère, elle me regardait. Enfin, j'avais pas ma langue dans ma poche. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le fait de voir des tantes ou des connaissances, des voisines, avec toutes ces injustices, parce qu'elles étaient des femmes, en fait. Et je me souviens que j'allais voir ma mère et je lui disais « mais fais quelque chose, va voir sa mère, dis-lui non ». Et elle me disait, mais arrête, ça ne nous regarde pas, arrête de croire que tu vas pouvoir changer le monde. Et en fait, je crois que j'ai grandi avec cette colère en moi, parce que quand j'étais enfant, j'étais complètement... j'étais impuissante. Du haut de tes 8-9 ans, arrête de croire que tu vas pouvoir changer le monde, quoi. Et je crois que j'ai grandi avec cette colère en moi, le fait d'avoir été impuissante à l'époque. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir entre les mains cette possibilité, enfin, entre les mains, oui, le cinéma, quoi, pour pouvoir créer des images. Et moi, c'est ma thérapie, en fait, le cinéma. Ça, je m'en suis rendu compte après. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai réalisé à quel point je réglais des comptes au-delà de dépeindre des réalités sociales et de raconter une histoire, etc. Il y a aussi quelque chose de très, très, très personnel, très viscéral. Et je pense que je me soigne, je fais une réelle introspection. Et surtout, je communique avec mes films parce que parfois, il y a des choses qu'on a du mal à dire aux gens qu'on aime. Et j'utilise mes films pour leur transmettre le message. Et aussi, là où je trouve que c'est fort, c'est que j'ai utilisé mes films aussi pour leur faire me dire ce que j'aimerais qu'ils me disent.
Waouh, c'est magnifique, c'est courageux. C'est pas la façon la plus simple de communiquer, de réaliser un long métrage, et pourtant ça marche.
Je pars du principe que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de très difficile, on peut soit le garder et se dire voilà, il m'est arrivé cette horreur et puis soit je me morfonds, soit je pleure, ou soit c'est difficile et ça va me suivre toute ma vie, ou soit on en fait quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est je me dis, je veux pas que ça me soit arrivé en vain, je veux l'utiliser, le transformer, et je veux pouvoir le transformer en beau. Le transformer avec une histoire, le transformer avec un récit, pour toucher d'autres personnes encore, et pourquoi pas les transformer, ou en tout cas leur donner envie de transformer. Enfin voilà, c'est un cycle sans fin, n'est-ce pas?
Ouais, bah, ça ressemble un peu à la définition de la résilience, au fond. Maïmouna Doucouré, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue?
Je pense que... Quand on dit on est devenue femme, c'est le fait d'avoir pris conscience qu'on était une femme. Hein, c'est ça, je pense qu'il y a des... Enfin, quand j'étais enfant, je me posais pas forcément de questions. Bon, je voyais bien qu'avec mes frères, on n'avait pas les mêmes corps. D'ailleurs, je me souviens que mon petit frère, il n'arrêtait pas de dire à mes parents, mais pourquoi vous achetez pas un zizi pour Maïmouna? Parce que c'était pas... On avait 3 ans, 4 ans, et on faisait tellement tout ensemble. Mais je ne me posais pas forcément de questions, et c'est vrai que c'est... oui, peut-être, probablement, c'est les injonctions, ou en tout cas les différences de traitement que j'ai pu observer entre les hommes et les femmes, qui m'ont fait prendre conscience du fait que j'étais une fille, du fait que j'étais une femme. Ouais.
Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez fait d'abord, avant de faire votre carrière dans le cinéma, une licence en biologie. C'est un domaine qui relève de la science dure, qui est quand même assez éloigné de la création artistique. Qu'est-ce qui vous attirait? Quelle part de vous était attirée par cette filière?
Alors moi, disons que le cinéma, ça a toujours baigné en moi. Ça a toujours été une sorte de rêve impossible que je n'osais pas vraiment formuler. Je n'osais pas trop en parler. Les peu de fois où j'en parlais, je voyais bien qu'on me regardait presque en riant, quoi. Enfin, oui. Mais bien sûr, continue de rêver. Et après le bac, je me suis dit, je veux faire quelque chose que j'aime. Ça, c'était quelque chose... Je me suis fait cette promesse. Je veux faire quelque chose que j'aime. Je veux être contente de me lever le matin pour aller travailler, etc. Et c'est vrai que je savais pas vraiment quoi faire, et j'ai choisi la matière qui me plaisait le plus, c'était la bio. Moi, j'avais passé un bac S et j'aimais beaucoup la bio, et ça me fascinait de comprendre, en fait, de comprendre la vie, en fait, de comprendre tout ce mécanisme physiologique, de comprendre ne serait-ce que le corps humain, mais aussi toutes les vies qui l'entourent, et de comprendre à quel point, finalement, même si on tient une place centrale, enfin en tout cas on pense tenir une place centrale, finalement on fait partie d'un tout. Tout ça, ça m'intéressait. Mais en même temps, franchement, je n'étais pas une élève studieuse parce que j'étais perdue, quoi. J'étais à la fac et puis j'ai passé mon temps à arrêter, reprendre, parce que j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait le cinéma, les histoires, c'est vers ça que tu as envie d'aller, quoi. J'ai passé quand même une licence parce que je pense que finalement, tout ce que j'ai entendu, enfin mes parents qui me disaient il faut quand même que tu arrives à avoir un diplôme, que tu fasses des études. Je réalisais que j'avais cette chance, en tout cas cette opportunité. Donc, j'ai eu une licence. Et puis après, un jour, j'ai dit, allez, stop, j'arrête pour de bon. Et je veux plus me laisser le choix. Je veux vraiment aller vers ce qui m'anime le plus au monde. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Enfin, ce n'était pas si simple.
Oui, c'est un parcours finalement qui est quand même aussi assez fulgurant parce que finalement, vous avez passé un concours de court-métrage en 2013. Vous avez fait un court-métrage que j'aurais adoré voir, mais il est introuvable en ligne, qui s'appelle Cache-Cache. Et vous dites que vous avez appris à faire...
Oui, je pense que je vais bientôt le rendre disponible.
Ah, génial, parce que j'aimerais vraiment pouvoir le regarder. Et vous dites que vous avez appris à faire du cinéma en 3 mois. Vous êtes immergé dans les... dans des tutos, dans des cours, tout ce que vous pouviez trouver en ligne, mais en l'espace de 3 mois. Et je vous ai entendu dire que cet apprentissage accéléré avait été une chance pour vous. Pourquoi c'était une chance d'avoir appris si vite?
Déjà, c'est vrai que moi, au début, j'écrivais des histoires, mais j'ai ouvert la porte de l'acting dans un premier temps. Donc, j'ai toujours fait partie de compagnies de théâtre, vraiment en lycée, fac, j'étais toujours dans des compagnies de théâtre. Et puis, j'ai participé à des tournages en tant qu'actrice. C'était des courts-métrages, des petites productions. Mais c'est vrai que le fait de faire un film, c'est-à-dire avoir une équipe technique, comprendre le fonctionnement de la caméra, qu'est-ce que c'est que raconter une histoire à travers une image, diriger les acteurs, etc. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et ce concours, quand ils m'ont contacté pour me dire « vous faites partie des lauréates », je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que toutes ces questions toutes ces voix qui me disaient que j'en étais pas capable, tout à coup, je n'avais plus il n'y avait plus l'espace de les laisser s'exprimer dans ma tête parce que je n'avais plus le temps. J'avais 3 mois pour faire un film et c'est tout. Donc à partir de là, j'avais j'avais plus d'autre choix que de foncer, quoi. Et ça a été salvateur parce que j'ai monté une équipe complète, dirigée. Il y avait 10 enfants sur le film.
Déjà.
Décidément, j'aime beaucoup les enfants depuis longtemps. Il y avait 10 enfants, c'était en pleine neige, tout en extérieur. C'était hyper difficile. C'était vraiment très, très difficile. Mais en même temps, en même temps que je disais action, j'appelais pour savoir si le repas était arrivé. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc finalement, on se retrouve à faire plusieurs tâches en même temps. Mais quand on voit les images, quand j'ai vu les images que j'avais dans la tête sur un écran, retransposées dans un écran, je me suis dit, OK, j'en suis capable. OK, je peux le faire. Et donc, à partir de là, j'ai dit, maintenant, je n'ai plus peur. J'ai plus peur de rien. Je vais raconter l'histoire. J'ai trop de choses à dire. Et c'est à partir de là où j'ai décidé d'écrire Maman, ensuite, donc mon premier court-métrage. Et ensuite, Mignonne.
Et moi, c'est ça que je trouve incroyable. C'est que quand on voit les interviews, les images de l'époque où vous assuriez la promotion de Maman, vous n'arrêtez pas d'énumérer le nombre de festivals où vous avez été sélectionnée. Alors au début, c'est 50, après c'est 100, après c'est 200. Vous avez raflé des prix, mais dans le monde entier, il n'y a pas un pays au monde qui ne vous a pas décerné un prix. Et en fait, c'est une histoire de succès. Et moi, j'ai l'impression, ces derniers temps, je me suis interrogée sur cette notion de succès. J'en ai parlé avec des gens autour de moi et souvent, ce qui ressort, c'est que le succès, au fond, c'est un faux ami. C'est quelque chose qui peut déconnecter, qui peut déboussoler, qui peut mettre en danger, qui peut faire douter de la faculté à le faire durer. Mais j'ai l'impression que vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça.
Je pense que ça, c'est mon éducation qui me l'a apporté. Le fait d'avoir aussi ma famille autour de moi, le fait d'avoir mes mamans, mes 9 frères et sœurs. Quand on sort de la cérémonie des Césars, avec un César, notamment avec maman, et qu'on rentre chez soi, enfin, en tout cas, qu'on va voir ses parents, sa famille, si vous voulez, la connexion que j'ai avec ma famille fait que, quoi qu'il arrive, je sais que je resterai, moi, toujours sur terre. C'est-à-dire que je sais savourer le succès, parce qu'il fut un temps où j'avais peur de le savourer, surtout au début avec maman, quand je commençais à avoir 1, 2, 3, 10, 15, je me disais, mon Dieu. J'avais l'impression que le fait de savourer une victoire, ou en tout cas un prix, ça allait arrêter le processus. J'ai appris à savourer. Je me suis dit, allez Maïmouna, demain tu ne sais pas, ok ? Demain on ne sait pas, on sait que tout est toujours à construire. Par contre, aujourd'hui, tu sais, donc, ce qui t'arrive, c'est magnifique, c'est génial, savoure, profite. Et je sais que le fait d'être entourée comme je le suis aujourd'hui, avec ma famille, mes amis, qui sont authentiques avec moi, qui m'apportent tout cet amour, tout ce soutien, fait que je ne peux que garder la tête sur les épaules, quoi, clairement. Et parce que c'est aussi d'où je viens, quoi. Enfin, j'ai grandi dans un 3 pièces, on était 13 dedans. Vraiment, je tiens à dire que j'ai eu une enfance solaire, quoi. J'ai jamais connu l'ennui, j'ai toujours mangé à ma faim. J'avais conscience qu'on n'était pas riche, voire même qu'on était pauvre par rapport à d'autres, même si on mangeait vraiment à notre faim et qu'on n'avait pas de problème pour s'habiller ou quoi. Je pense que tout ça, ça me constitue, ça fait partie de moi, et quoi qu'il m'arrive demain, même si, enfin, je pense que ça fera toujours partie de moi, en fait, et c'est ce qui me définit, quoi.
Dans votre discours au César, lorsque vous avez reçu le prix du meilleur court-métrage, vous avez dit cette phrase très belle, qui vous a d'ailleurs par la suite inspiré un documentaire pour Canal+. Vous avez dit « Ma mère disait que le cinéma, ça n'était pas pour nous ». Et en fait, vous venez un petit peu de répondre, quoi. Est-ce que c'est pour donner tort à cette phrase que vous essayez sans cesse de prouver que c'est l'inverse, quoi ?
Déjà, quand ma mère me l'a dit, je l'ai cru. Non pas parce que je me suis dit que ma mère avait la science infuse, mais parce que, en allumant la télévision, tout lui donnait raison. Tout lui donnait raison. C'est-à-dire que j'avais cette sensation de regarder, parce que pour moi la télévision c'est une sorte de miroir de la société, sauf que je me regardais dans un miroir sans jamais vraiment voir mon reflet, et je trouve que pour se construire, ou en tout cas avoir des aspirations, quand on est enfant, c'est extrêmement difficile, et le message qui est renvoyé est extrêmement violent aussi, parce que c'est dire qu'on n'existe pas quelque part. Pour moi, ne pas se voir dans la fiction, c'est en tout cas recevoir ce message sur lequel on n'existe pas dans la société, ou en tout cas, on ne compte pas. Et c'est pour ça que j'ai dit cette phrase à ce moment-là, parce que quand j'ai eu le César, je parlais à ma mère, mais en fait, je ne parlais pas qu'à ma mère, je parlais à la société entière, je parlais au cinéma, pour lui dire, il faut qu'on avance, ça avance encore trop doucement. Et ces récits-là qu'on est en train de créer sont extrêmement importants, parce qu'ils vont susciter des vocations, ils vont élargir le champ des possibles pour des millions d'enfants, et qui pourront devenir, et surtout n'avoir aucune limite sur ce qu'ils veulent être plus tard. Et ce message, il s'est adressé à tous, en fait.
Et d'ailleurs, dans ce discours, je trouve qu'il y a déjà aussi en filigrane tout ce qu'on retrouve dans le fameux discours d'Aïssa Maïga, qu'elle a prononcé il y a un peu plus d'un an maintenant au César en 2020, quand elle a commencé avec cette phrase, dès que j'arrive dans une salle de cinéma, enfin, où on parle de cinéma, la première chose que je fais, c'est je compte les noirs. Et elle a glacé la salle avec ces mots. Pourtant, c'est exactement, enfin, c'est la même pensée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée que finalement les personnes noires dans le monde du cinéma sont des exceptions, sont des raretés. Et ça m'a donné envie de remonter un peu le temps et de regarder la cérémonie de 2017, qui était une cérémonie où, en fait, on avait couronné votre film, on avait couronné Alice Diop. C'était aussi l'année de divine avec Ouda Benyamina et ses comédiennes qui avaient été récompensées.
C'était magique.
C'était vraiment une année hyper forte en termes de présence des femmes et puis en termes de présence entre guillemets de diversité. Et là, en 2020, on a la cérémonie du couronnement de Roman Polanski. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est reparti en arrière? Est-ce que 2017, c'était une espèce d'anomalie, un soubresaut? Est-ce qu'on est en train de vivre un backlash parce que justement les choses étaient en train de s'accélérer? Comment vous percevez les choses aujourd'hui?
Moi, je crois que le plus bel exemple, je ne sais pas si on peut dire plus bel exemple, mais en tout cas, l'exemple qu'on peut donner pour comprendre que rien n'est jamais acquis et que le combat doit être perpétuel, c'est quand on a eu un président qui s'appelle Barack Obama et que la fois d'après, on a Donald Trump. Je pense qu'à partir de là, on peut se dire que jamais on doit se dire c'est bon, on y est arrivé. Non, nous n'y sommes pas arrivés et je pense qu'on devra toujours se battre. 2017, c'était une année évidemment incroyable. Maintenant, il ne suffit pas que tous les 3-4 ans, il y ait un noir, une noire, une personne d'origine maghrébine qui gagne un César pour dire qu'on y est arrivé. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est se dire qu'il y a des talents, mais il y en a pléthore qui existent à tous les étages, en fait, toutes les sphères et comment en fait les mettre en avant. Parce que finalement, quand on arrive à la cérémonie des Césars, c'est la fin. On est à la fin du circuit. Donc, j'ai envie de dire, c'est trop tard. La question, il faut se la poser au tout début. Au tout début du début du début. C'est-à-dire, faut la poser au niveau des responsables de chaîne. La question de l'inclusion, c'est au niveau des responsables de chaîne, ceux qui décident, les boîtes de distribution, les boîtes de production, les commissions d'aide à l'écriture, parce qu'en France, les films se financent à partir de l'écriture. Donc c'est là aussi que les projets naissent. Cette question, il faut vraiment la poser en amont. Et la diversité, parce que pour l'instant, c'est une question, à chaque fois qu'on parle de diversité, personne ne sait vraiment si on a le droit de l'utiliser ou pas.
Ça.
Mais à défaut d'avoir d'autres mots. Non, mais moi, à chaque fois, j'en parle avec des... Je dis, écoutez, je ne sais pas quel autre mot utiliser. Donc, pour l'instant, j'utilise celui-là jusqu'à qu'on n'en ait plus besoin.
Exactement.
C'est ça. Bon, on va dire l'inclusion, parce que l'inclusion, je crois que c'est celui-là, on a le droit. Pour dire que, parce que les mots ont aussi une importance, c'est pour ça que je dis ça, les mots sont vraiment importants. Et quels sont les bons mots à utiliser? Ça, c'est des interrogations aussi que j'ai de façon perpétuelle et avec des spécialistes qui réfléchissent sur toutes ces questions. Mais pour dire que cette inclusion est essentielle à tous les niveaux pour qu'ensuite on puisse avoir une résultante significative lorsqu'on arrive le soir de la cérémonie des Césars, quoi. Et encore une fois, là, ce qu'on demande, c'est juste que la fiction soit représentative de la réalité. On n'est pas en train de demander quelque chose d'impossible. C'est juste être à l'image de la société en termes de représentation. Et voilà, moi, j'ai longtemps vécu comme une sorte d'injustice. Après, je suis optimiste. Je vois que ça évolue dans le bon sens. Et comme je disais tout à l'heure, on n'y est pas arrivé. Il y a encore du chemin. Il faut rester vigilant, voilà, et continuer à se battre, raconter des histoires et continuer à exister, quoi.
Et pourtant, c'est pas facile, parce que quand on arrive aussi, comme vous, un gros niveau de visibilité, un gros niveau de notoriété, ce qui menace, c'est un autre type de backlash, comme celui que vous avez vécu avec la sortie de Mignonne sur Netflix. Alors, je vais faire un espèce de résumé ultra rapide. J'espère qu'il vous conviendra. N'hésitez pas à reprendre si besoin. Mais voilà, en gros, Netflix a utilisé comme visuel pour le film un visuel qui n'était pas du tout l'affiche que vous aviez choisi, où on mettait bien en avant la jeunesse, l'adolescence, l'insouciance des actrices principales du film. Alors que sur le visuel de Netflix, c'était une scène tirée des chorégraphies très lascives qu'elles font et qui sont justement questionnées donner dans tout le film. Et en fait, ce que j'avais pas forcément bien compris à l'époque, c'est que ce backlash, cette polémique, est venue vraiment des conservateurs américains, des Trumpistes, quoi. C'est des catholiques intégristes du Texas qui ont lancé l'attaque contre vous et ensuite qui ont été repris, qui ont déclenché une avalanche de hashtags de violence où on appelait carrément à annuler le film. Même, on disait même annuler Netflix, hein, c'était cancel Netflix le hashtag, ce que je trouve assez ambitieux comme projet. Enfin, tout ça pour dire que la polémique est arrivée finalement sur cette histoire de sexualisation des adolescentes, alors que le propos de votre film est précisément de la dénoncer, de la questionner. Comment vous l'avez vécu, vous, cet épisode-là? Est-ce que vous vous êtes dit c'est la rançon de la visibilité? Est-ce que vous avez eu un sentiment d'injustice?
Alors, je me souviens que c'était exactement le jour de la sortie du film en France. Je rentre chez moi le soir parce qu'on a présenté le film dans quelques salles le jour de la sortie. Donc, on a fêté ça en petit comité avec quelques actrices. Et le soir, donc, j'ai mes petites actrices qui m'appellent parce qu'on a un groupe sur WhatsApp. Donc, elles me disent « Maïmouna, Maïmouna, on est dans la sauce. » Ils nous mettent dans la sauce sur Twitter. Donc, du coup, je suis dans la sauce. C'est de quoi bien. Vous parlez. Et sur le coup, je leur dis « Non, mais les filles, vous ne prenez pas la tête. Vous savez, sur Internet, il y a toujours les gens qui parlent. Ne vous embêtez pas avec ça. » Sauf que moi, j'avais Twitter. J'y vais jamais, hein, mais j'avais quand même Twitter. Et je vais sur mon Twitter, sauf que là, je vois que je suis inondée. Mais quand je vous dis inondée, c'est... Enfin, je ne pourrais même pas expliquer... Enfin, ça se chiffre en millions. Donc, au bout d'un moment, c'était arrivé à saturation, quoi. Donc, premier réflexe, je ne comprends pas, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon agent aux États-Unis. Je dis, je crois qu'il y a un problème chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, elle fait son enquête et elle me dit, oui, c'est à cause de l'affiche. Je dis, mais de quelle affiche tu parles? Enfin, je ne comprends pas l'affiche. Elle a quoi, l'affiche? Et là, elle me dit, Netflix a utilisé une affiche qui n'est pas la même. Je dis, ah bon, enfin bref. Et donc là, elle me montre l'affiche. Là, bon, je comprends et je dis. Et donc là, ça a été. Oui, ça a été vraiment très, très violent parce que les personnes qui résumaient le film sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hein, ils expliquaient que Cuties était l'histoire d'une fille noire oppressée à cause de la religion musulmane. Qui allait être libérée par une fille blanche aux cheveux longs grâce au twerk. Voilà, donc c'était le résumé de mon film sur Internet. Et puis, surtout, le fait que le film était l'apologie de l'hypersexualisation, que moi, en tant que réalisatrice, je trouvais ça génial, enfin bref. Et c'était fou parce que, premièrement, les gens n'avaient pas vu le film, donc ils se basaient sur une affiche et des résumés, du coup, quand on voit que... sur Internet, je crois que c'est un documentaire d'ailleurs qui est sur Netflix, qui est, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », « Social dilemma ». Mais vraiment, c'est essentiel de voir ce documentaire pour comprendre à quel point on peut être nous-mêmes lobotomisés, enfin en tout cas manipulés. Et comment il montre, parce que moi j'ai compris beaucoup de choses après en voyant ce documentaire, parce que je l'ai vu après, hein. Par rapport à la polémique que j'ai vécue. Je sais que cette polémique est aussi survenue, enfin en tout cas, elle est survenue à une espèce de momentum. Il y avait les élections présidentielles américaines au même moment. Donc on sait que c'est une guerre sans merci. Il fallait absolument utiliser tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour attaquer les démocrates. Et comme depuis longtemps, moi je ne connaissais pas tout ça, j'avais l'impression de découvrir le monde. On me parle de QAnon. Les théoriciens du complot qui sont convaincus que tous les démocrates sont pédophiles et que, évidemment, Hollywood est pédophile également, vu qu'ils sont plutôt du camp des démocrates. On parlait aussi des Obama et de Hillary Clinton qui seraient également pédophiles. Et donc, dans tout ça, il y a Netflix qui vient avec Cuties. Donc, tout ça a été calculé. Vraiment, c'est un plan qui a été mis en place. Donc, c'est vraiment leur croyance. Ils sont convaincus que la Terre est plate. Enfin, c'est... Et là, j'ai compris que ça ne servait à rien, quoi. Plus on allait essayer de leur dire que ce qu'ils essayaient de... En tout cas, leur pensée était fausse, plus ils allaient se conforter dans cette croyance. Donc, au bout d'un moment, c'est une croyance, quoi. C'était même plus rationnel, quoi. Et puis, ça nous dépasse tellement. Après, Internet... moi, j'ai décidé de couper. J'ai coupé mon compte Twitter. Et puis, j'ai limité mes comptes, que ce soit Facebook ou Instagram. Je les ai limités parce que j'étais tellement... Enfin, j'étais harcelée, en fait. J'étais submergée de messages, de menaces. Enfin, les gens, ils sont là, ils veulent tous te tuer, quoi. Tu dis, mais...
C'est incroyable.
Avant ça, on ne peut pas discuter au moins. Vous ne voulez pas qu'on échange. Enfin, il y a peut-être une étape avant de vouloir me tuer, quoi. Enfin, bref, c'était assez virulent. Mais ça va, encore une fois, j'étais très bien entourée. Très, très bien entourée. Le plus dur, c'était surtout de gérer les parents de mes actrices. Ouais. Parce que quand on est soi-même, on va dire, en quelque sorte, sous l'eau et que... faut prendre le temps d'appeler chaque parent, un par un, et de, en tout cas d'être assez, comment dire, sereine dans sa voix, etc., et de rester une heure et demie, le temps qu'il faut avec chaque parent. Et puis à la fin, bah, absorber les interrogations, les craintes, etc. Ça, je crois que c'était pour moi le plus difficile. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que je suis reconnaissante parce qu'on a eu énormément de soutien, quoi. Enfin, on a eu tellement de soutien, les artistes américains, la presse, de façon générale, nous a beaucoup soutenus. Toutes les personnes qui avaient vu le film, en fait, à Sundance, à Berlin, la presse française, le gouvernement français, vous tous, plein de féministes aussi, qui, plein de personnes, en fait, sur que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, que ce soit des personnes, entre guillemets, lambda. On a eu énormément de soutien et ça a été vraiment essentiel, quoi. Et très, très important pour moi.
Mais c'est intéressant, ça raconte aussi vachement le paradoxe américain parce que les États-Unis vous ont apporté le pire, parce que je pense que cette polémique, voilà, faut quand même prendre conscience que vous avez été harcelée et menacée de mort, cible d'injures, voilà, absolument ignoble. Mais c'est aussi un endroit où vous avez été beaucoup plus accompagnée et poussée qu'en France. Je crois qu'après votre César en 2017, vous n'avez pratiquement plus eu de nouvelles de l'Académie. Et je crois que c'est un classique. Hein. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça dans la bouche d'une réalisatrice. Et par contre, après votre première sélection à Sundance, l'Amérique ne vous a plus quittée. Vous avez été introduite dans les grands réseaux du cinéma américain. On vous a présenté Ava DuVernay, qui vous a pris sous son aile. Enfin, c'est vraiment les deux visages de l'Amérique, en fait, que vous avez découvert en sortant vos films.
Oui, après, moi, c'est vrai que j'ai du mal avec le... Enfin, en tout cas, je fais attention à ne pas essentialiser en parlant de l'Amérique. Parce que même malgré le fait... Enfin, même si on parle de millions de personnes, ça reste des individus avec des... Comment dire? Des différences. Et j'ai du mal à dire l'Amérique, ouais. Quoi. Je dis plutôt, oui, il est vrai que... les festivals américains auxquels j'ai participé, en tout cas, il y a une certaine culture de l'accompagnement des talents qui existe aux États-Unis. Et ça, j'ai eu la chance d'avoir pu en bénéficier, que ce soit avec le festival de Sundance, que ce soit parce que le festival Sundance, je rappelle que mon court-métrage, j'avais remporté le prix international. Donc avec Maman et avec Mignonne, on a remporté le prix de la mise en scène, voilà, de la meilleure réalisation, et ou l'Académie des Oscars, vous l'avez très bien dit, j'avais remporté un César, je n'avais pas remporté d'Oscar, mais c'est l'Académie des Oscars qui m'a remis le Gold Fellowship Award, qui est un prix remis à la meilleure jeune réalisatrice et qui jusqu'à aujourd'hui continue de m'accompagner dans ma carrière. Enfin, dans ma jeune carrière, hein. Donc il y a ce point-là qui est important à soulever, parce que le film a eu sa première mondiale aux États-Unis. Les Américains, il y a eu 9 projections dans des salles. À chaque fois, c'était des salles immenses de 1000 personnes, 600 personnes. C'était des Américains. Le film, ils l'ont reçu. Ce sont des réalités que je raconte qui sont universelles. Et j'ai envie de dire qu'ils sont même peut-être même plus américaines, parce que l'inspiration qu'ont ces petites filles de clips américains, ce sont des clips américains. On parle aussi du pays où il y a les concours de Minimis. Enfin bref, c'est un film qui, j'ai envie de dire, est peut-être presque même plus américain qu'autre chose. Le public américain que j'ai rencontré...
Puis les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs.
L'injonction des réseaux sociaux, tout... Évidemment, donc les Américains sont extrêmement concernés par toutes ces questions. Donc, quand le film a été présenté au Festival de Sundance, tous les échanges ont été extrêmement fructueux parce que les gens se reconnaissaient à travers l'histoire, reconnaissaient en tout cas ce que je dépeignais de façon sociale, et ils comprenaient totalement, quoi. Ils étaient touchés par le film. Et encore une fois, moi, je mets vraiment ça sur le compte de... d'une sorte de désinformation qui est liée à notre époque avec les réseaux sociaux où tout va extrêmement vite, quoi. Un tweet suffit à faire une information qui va être liée à des millions de millions de millions de personnes. Et puis après, ils ont extrait des scènes du film, les scènes notamment de fin, de danse, etc., hors contexte. Et puis, ils ont relayé. Et en plus, on était en plein confinement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils étaient en plein confinement, en plus des élections présidentielles. En plus de QAnon, donc tout ça a convergé pour créer cette polémique sans précédent.
Bon, on est parti vers le très très large, là, vers le grand complot mondial, mais je voudrais qu'on revienne un petit moment vers l'intime parce qu'on arrive au bout de l'interview et il y a un moment que je trouve vraiment magnifique dans l'histoire de Mignonne, c'est que vous veniez d'accoucher de votre petite fille au moment où vous avez enclenché la préparation du tournage. Et pour ce tournage, vous avez mené une énorme enquête de terrain. Vous avez rencontré des centaines de fillettes de 10-11 ans pour comprendre leurs aspirations, leurs modèles, la façon dont elles vivent leur socialisation, etc. Et moi, je me demande, en tant que jeune maman, ce que ça peut engendrer comme réflexion, comme interrogation et peut-être même comme choc d'avoir un petit bébé-fille dans les bras tout en voyant ce qu'elle pourrait devenir 10 ou 11 ans plus tard.
Déjà, c'est vrai que j'ai été assez bouleversée par toutes les rencontres que j'ai pu faire parce que, comme vous l'avez dit, j'ai fait une enquête d'un an et demi, j'ai rencontré plus de 150 petites filles qui m'ont raconté leur histoire. J'avais vraiment besoin de comprendre comment elles vivaient leur féminité naissante dans la société, à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai entendu des choses. Si je vous dis que c'était un point où je pense que je n'ai pas eu l'audace, enfin en tout cas le courage artistique d'aller au niveau de ce que j'ai pu entendre dans Mignonne, parce que ça allait trop loin, quoi. C'était trop, quoi. Je vous parle de prostitution infantile. Je vous parle les nudes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans Mignonne, le fait qu'elle prenne en photo son sexe à un moment donné dans le film, et que ça, c'est inspiré de rencontres. Hein. Ce sont des jeunes filles qui m'ont raconté qu'elles avaient fait ça pour pouvoir chercher, en fait, d'une certaine façon, l'amour. Parce que pour moi, c'est une nouvelle façon, en fait, de chercher de l'amour, de construire l'estime de soi, quoi, à travers des images de soi qui ne nous appartiennent plus et qui doivent être validées d'une certaine façon par une masse de personnes qu'on ne connaît pas, qui vont nous liker ou nous unliker. Et c'est comme ça qu'on va finir par s'aimer ou pas. Et je trouve que quand on est enfant, c'est... Enfin, j'interroge notre responsabilité, quoi, en tant qu'adulte, de laisser nos enfants livrés à eux-mêmes face à tous ces outils. Et quand on est une jeune fille, quand on a ce modèle récurrent qui nous dit que pour être une femme respectée, pour être une femme qui a du succès, il faut être absolument la plus objectifiée possible, quelles sont les conséquences ? Moi, j'ai vu des petites filles, il y en avait une qui avait 8 ans, qui mettait des culottes rembourrées parce qu'elle était extrêmement complexée de ne pas avoir assez de fesses. J'ai vu des petites filles qui mangeaient du coton parce qu'elles avaient pris trop de poids et qu'elles voulaient absolument perdre du poids. Donc, il fallait mentir à son corps en mangeant quelque chose qui n'était pas alimentaire pour surtout ne pas prendre un gramme. J'ai vu, je vous parlais de prostitution infantile, 12 ans, voire même plus jeune, mais je ne veux pas vous traumatiser, donc je ne vais pas tout vous raconter ici. Mais quand j'entends, parce que je parle beaucoup d'amour, parce que pour moi, ça part de là aussi, c'est cette volonté d'exister d'une certaine façon. Quand je parle à une jeune fille de 12 ans, lors de mon enquête, quand je lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'amour pour elle, et quand elle me répond que l'amour... c'est quelque chose qui pour elle est pratique parce que l'amour, ça permet aux garçons de nous acheter toutes les chaussures et tous les sacs qu'on a envie d'avoir. Ça glace le sang. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis en France. Mon enquête, je l'ai faite, on était en 2018. On est en 2018 en France. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de cette petite fille pour qu'elle puisse penser que c'est ça l'amour ? Donc, entendre tout ça, je pense que c'est qu'on n'a pas d'autre choix que de... Enfin, on a une responsabilité, on n'a pas d'autre choix que d'agir, en fait. Et moi, j'ai essayé de le faire à travers ce film. Et j'espère, en tout cas, que... C'est pour ça que quand il y a eu la polémique, ça m'a... J'en reparle comme ça très rapidement, je sais qu'on arrive vers la fin, mais c'est juste pour dire que j'ai trouvé dommage que la problématique soit déplacée, en fait. Comme si moi, j'avais inventé l'hypersexualisation et dans la société. Donc, je propose plutôt que tous ensemble, on unisse nos forces pour trouver des solutions et offrir d'autres modèles à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons pour se construire.
Mmh. D'ailleurs, vous avez clos la polémique Netflix en postant sur Instagram Mignonne ou le jour où j'ai posé un miroir face au monde. Et c'est la dernière question que je voulais vous poser. Où est-ce que vous allez poser votre miroir pour votre prochain film, celui que vous êtes en train d'écrire en ce moment?
Alors, où est-ce que je vais poser mon miroir? Je pense que je vais continuer à explorer la féminité. En tout cas, ce que ça veut dire qu'être une femme, parce que je ne sais pas si la définition existe, mais ce sont des questions qui m'animent, qui m'habitent. Et là, pour l'instant, je ne peux pas trop en dire, mais c'est vrai que je travaille sur plusieurs projets. Et j'aime cette idée de... Tout à l'heure, on parlait de changer le monde. J'aime cette idée d'être comme des espèces de magiciens, en fait. Pour moi, les artistes, on est des magiciens parce qu'on peut agir sur la vie des gens, on peut agir sur l'esprit des gens, on peut agir sur notre société, sur notre monde. Et donc, je continue avec ma petite baguette qui est plutôt mon crayon et ma caméra,
votre caméra, ouais.
Pour raconter, voilà.
Avant qu'on se sépare, je vais vous poser les deux questions rituelles de la poudre. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ?
En fait, c'est pas un lieu physique, c'est plutôt mon imaginaire. C'est ma chambre à moi, le lieu où je me sens vraiment le plus libre, c'est dans la création. Parce que là, vraiment, il n'y a rien qui m'arrête. Et quand en plus, cette création peut être retransposée sur un écran et partagée avec le monde... là, j'ai l'impression de vivre un réel accomplissement.
Et ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
La poudre, ah ouais. Oh waouh ! Alors là, je crois que vous m'avez lancé sur un truc là. La poudre, waouh ! Parce qu'en plus, j'ai lu votre livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et vous parliez de révolution. Et c'est exactement pour moi, c'est le mot quoi. C'est la poudre, ça évoque une sorte de poudre qui permet d'arriver à une explosion, mais pas l'explosion qui va tuer les gens, c'est l'explosion qui va nous rendre encore plus vivants, qui va tous nous réveiller d'un coup et nous dire « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait pour cette égalité tellement légitime ?» Et je suis tellement d'accord avec vous quand vous dites que ça ne pourra passer que par une révolution. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est en marche, quoi. Elle est en marche et qu'on l'entend de plus en plus. Je suis assez rassurée pour les générations à venir, même si, encore une fois, il faut toujours rester éveillée parce que ce n'est pas encore gagné, mais on va y arriver.
Merci infiniment, Maïmouna Doucouré. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
Merci, merci à vous.
Merci à Maïmouna Doucouré d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite.
prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.